Bond. James Bond.
You fucked my wife.
Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de Agorama. Cette émission est une collaboration entre le cinéma Le Majestic, Radio Agora et le Café Labo de la MJC Claude Nougaro, puisque des soirées cinéma, karaoké et autres auront lieu une fois par mois dans ces 10 lieux. On parlera dans ce nouvel épisode d'un film cultissime, Les Blues Brothers, de John Landis, sorti en 1980 et qui sera diffusé le 27 janvier au cinéma Le Majestic à Montmorillon. J'accueille bien sûr en plateau la fine équipe avec Jean-Baptiste et Jean-Pierre du Majestic et Lise du Café Labo. Bonjour à tous.
Bonjour.
Salut.
Bonjour tout le monde.
Alors avant de débuter cette première émission sur l'emblématique film des Blues Brothers, je vous propose d'écouter un petit retour du public qui est allé voir Phantom of the Paradise qui a été diffusé le mois dernier. Alors ce soir il y avait Phantom of the Paradise qui passait au cinéma Le Majestic. Vous êtes venu le voir, est-ce que vous l'aviez déjà vu ou est-ce que c'est une première?
Alors c'est marrant que tu poses la question parce que je viens de me souvenir que je l'ai vu il y a longtemps en le voyant. Je m'en souvenais pas, mais c'est vrai que voilà, je l'ai vu il y a longtemps et puis ça, j'avais envie de le revoir. Enfin, j'ai envie de le voir une première fois et du coup de le revoir.
C'est un bon souvenir ?
Mais, du fait que je m'en souvenais pas, je peux pas dire que c'était un bon souvenir maintenant, là, maintenant. Non, je le redécouvre avec plaisir. C'est vrai que je me souvenais pas de l'avoir vu, mais ça doit remonter à il y a plus de 10 ans. Donc voilà. Mais bon, oui, c'était assez sympa, ouais.
C'est un bon film pour vous ? Est-ce qu'il a bien vieilli ?
Je sais pas si je dirais qu'il a bien vieilli. Je trouve qu'il faut aussi le mettre dans son contexte. Tu vois, j'aime bien ce genre de film, c'est sûr. Puis j'aime bien la photographie et tout ça, mais c'est un film qui a vieilli. Après, je pense qu'il est sympa à voir, quoi.
Et donc vous aussi, vous êtes venu voir justement Phantom of the Paradise. Vous en avez pensé quoi ?
J'ai bien aimé. J'ai trouvé ça. Je trouvais que la mise en scène était très théâtrale. C'était assez marrant. Mais après, effectivement, ça a vieilli sur certains points, je trouve.
C'est assez différent des films dont on a l'habitude de voir maintenant, parce que, comme vous venez de le dire, c'est très théâtral et ça se fait plus beaucoup. Est-ce que vous pensez que ça reste quand même un film à voir à n'importe quelle époque ?
Oui, parce que déjà, je pense que c'est culte. Puis, faut l'avoir vu.
C'est quoi votre passage préféré ?
Je pense que c'est quand Phoenix chante sa chanson toute seule.
Et votre personnage préféré ?
J'aime beaucoup l'acteur du fantôme, au fait, au début.
Et pourquoi ? Il vous touche ?
Bah oui, c'est un petit peu le loser. En fait, je pensais pas qu'il allait... Enfin, je connaissais pas du tout l'histoire, du coup, je pensais pas du tout que ça allait finir aussi mal pour lui. Oui, mais je veux dire, au début, quand il est juste en train d'écrire sa chanson et tout, je pensais pas qu'il allait être défiguré en prison et tout ça, quoi.
Il y a un côté très très loufoque, quand même, dans le film, qui... que j'aime beaucoup, enfin, c'est vraiment pas du tout sérieux, pourtant l'histoire hyper dramatique en fait.
Bah oui, c'est ça qui est étonnant avec la mise en scène, quoi. Ça fait très, comme tu dis, un peu cartoon, alors que c'est hyper dramatique. Ouais, mais je pense que c'est voulu aussi la mise en scène.
Oui, ça c'est pas gênant, enfin, je veux dire, même dans la direction d'acteur, si on va par là, Brian De Palma, je pense qu'il a fait des films où la direction d'acteur était quand même assez différente de ce genre de film-là. Là, il y a vraiment le côté théâtral et un peu ridicule, je pense pas qu'il ait cherché à avoir un côté très très dramatique justement du côté du jeu d'acteur ou de la mise en scène, mais plutôt c'est marrant d'adapter une histoire aussi dramatique justement comme ça. C'est un drôle de choix, je trouve ça assez fou de se dire que c'est sorti en, je sais pas, en 74, quelque chose comme ça. Ouais, c'est marrant.
Vous pensez que s'il sortait actuellement ça marcherait ou pas?
Je pense qu'il pourrait faire un bon remake en fait.
Ouais.
Avec même thématique, même couleur et tout ça, ou...
Bah dans un autre contexte du coup, à notre époque, quoi, ça pourrait être marrant.
Quel contexte ce serait maintenant, du coup, à notre époque ? Qu'est-ce que vous mettriez ? Parce que c'est pas comme de musique, du fait d'usurper les travaux, l'œuvre de quelqu'un, ça se fait beaucoup, en fait, au final.
Ah, je sais pas.
Si, bah le contexte actuel de ça, ce serait...
Avec les intelligences artificielles.
Ouais, il y a un truc à chercher là-dedans, mais de toute façon, ça c'est le cas de toutes les histoires très très classiques comme ça. Hein.
Phantom of ChatGPT.
C'est comme si on disait...
C'est trop chelou.
La Phantom of ChatGPT. Non, mais c'est ça, c'est comme si on disait réadapter du Hamlet maintenant, enfin n'importe qui peut le faire, je veux dire. Enfin, du Hamlet ou n'importe, du Shakespeare, vous voulez dire.
Bah, c'est des histoires qui vieillissent pas en soi, quoi. Là, c'est parce que c'est dans un contexte hyper particulier des années 70, mais en soi, fausse et tout ça, ça vieillit pas, quoi.
Alors, est-ce que vous auriez voir Phantom of ChatGPT? Est-ce que c'est un film qui vous intéresserait?
Pour la curiosité, oui. Vraiment. Sans rendre compte de ce que ça peut amener ou enlever de l'original.
Et vous autres, alors, vous en pensez quoi, Jean-Baptiste?
Bah, faudrait qu'on m'explique, parce que ça serait donc l'intelligence artificielle qui se ferait voler ou qui volerait le travail d'un autre.
Je pense qu'il volerait le travail d'un autre, à mon avis.
Bah, ça serait moins bien.
Ça serait moins bien.
Ça serait moins bien.
Parce qu'elle est moins maléfique que...
Elle est moins incarnée.
Ouais.
Oui, bah, c'est dans un film... Là, je pense en plus c'est un assez bon exemple, parce qu'on peut parler du propos du film comme on l'a fait, mais dès qu'on en ressort, nos premières impressions, c'est pas ça parle de ci, ça parle de ça, c'est comment ça a été filmé, quelles sont mes impressions, comment ça m'a diverti, c'est ça les premières impressions, et ça, ça passe forcément par l'incarnation d'un méchant, dans ce cas-là, qui est doux, qui est un peu petit, et qui en même temps qui fait extrêmement flipper, donc je pense que ça serait beaucoup moins bien avec une intelligence artificielle qu'on a tendance à représenter de façon un peu froide et impersonnelle.
D'accord. Et pour toi, Jean-Pierre?
Ah bah j'irai le voir, hein. Oui, ça, sans nul doute. Mais effectivement, je suis un peu comme JB, je pense que je crois que ça serait mon bon. Je suis d'accord avec lui.
Alors du coup, on va revenir sur la soirée, le déroulé du cinéma, de la séance et du Café Labo. Est-ce que vous avez eu du monde?
Non, on n'a pas eu du monde. Ce qui... forcément nous inquiéter dans un premier temps, et en fait on s'est très vite rendu compte que le problème était sans doute lié à la date qu'on avait choisie, donc un mercredi soir. C'est pour ça qu'on peut donc vous annoncer à partir de maintenant que toutes les séances de soirée de films cultes se feront donc des samedis soirs, et qu'ils vont continuer donc d'être soit le dernier, soit l'avant-dernier samedi donc de notre mois de programmation.
Très bien. Voilà. C'est vrai que les gens sortent plus facilement les week-ends qu'en semaine, c'est plus difficile.
Oui, on a remarqué que c'était une erreur, parce qu'on avait d'autres contraintes de programmation qui nous ont fait faire ce choix-là, mais à l'avenir, on s'arrangera pour qu'on ne soit plus dans une situation comme celle-là.
D'accord. Donc la prochaine date, c'est le 27 janvier, et ce sera les Blues Brothers. Et donc on sera un samedi, c'est ça?
On sera un samedi, comme tout le temps.
Oui, et puis ça sera plus facile aussi, parce que je pense que en semaine, de terminer la soirée au Café Labo, même si on fait de la séance un peu plus tôt, à 10h, 11h, en semaine, on n'ira pas. Enfin, les gens n'iront beaucoup plus difficilement, alors que le samedi, moi, foi, au contraire. Oui. Je pense que c'est un bon truc, ça.
Oui, c'est nettement plus compliqué de sortir et de faire la fête jusqu'à 2h du matin, un mercredi, quoi.
Bah, voilà.
Tout à fait d'accord. Nos karaokés, généralement, ou autres animations sont le vendredi ou le samedi soir. Et puis surtout, là, on était le 20 décembre, il me semble. Mmh. Vraiment, ouais. Genre, les vacances de Noël, les courses, etc. Donc, oui. Puis c'était ce que je disais, un film assez niche. Et du coup, là, on va aller sur d'autres publics qui peuvent être intéressés. Mmh. Donc, ça va être chouette aussi, quoi.
Tout à fait.
Pour tous les goûts.
Ça va être ça, et c'est bien d'avoir fait des films cultes aussi qu'on connaît peu. En tout cas, notre génération étant plus jeune, c'est vrai qu'on connaît peu, ou alors vraiment on est tombé dessus et gros coup de foudre. Mais sinon, c'est vrai que les Blues Brothers, ils passent tous les ans à Noël.
Ils passent à la télé déjà.
Ouais. Oui, et c'est vrai qu'il n'y a pas de chance pour voir Phantom of the Paradise à la télé. Et c'est fort dommage sur Arte. C'est sûr qu'il passerait, mais sur M6, TF1, je ne pense pas. Dommage. Je vous propose d'ailleurs d'écouter une chanson pour se remettre un peu dans l'ambiance de Phantom of the Paradise. La scène énumérée par la jeune fille qui a gentiment accepté de répondre à notre micro-trottoir. L'audition de Phoenix, si vous vous souvenez, quand elle danse.
Simple feeling, I thought I knew you, but I didn't know you at all. Trapped inside your world of worry, you miss so much when you always hurry. Well, slow down, baby, you'll only get hurt if you fall. Well, you told me one time that you'd be somebody, that you weren't working just to survive. But you're working so hard that you don't even know you're alive. Working so
so hard to be somebody special, not working just to survive. Well, you're special to me, babe, and what I don't see, babe, is where you go once you arrive. Where we go once we arrive. Damn all evil that takes possession until your pipe dreams become obsessions. They scare me, baby, and we should have nothing to fear. I'm no child, but I can't help wonder. It seems like some kind of spell you're under. You're listening, baby, but somehow you don't really hear. Well, you told me one time that you'd be somebody, that you weren't working just to survive. But you're working so hard that you don't even know you're alive. Working so hard to be somebody special, not working just to survive. Well, you're special to me, baby, what I don't see, baby. Where we go once we arrive. Where you go once you arrive.
Voilà, on est de retour sur Radio Agora pour parler de l'excellentissime film Les Blues Brothers. Alors certains sont fans, d'autres un peu moins, et on le sait, on en a déjà discuté nous en amont, en studio, et on vous expliquera pourquoi ça nous a plu et pourquoi ça nous a pas plu. Alors, je reviens donc avec Jean-Baptiste, Jean-Pierre, Élise, et donc nous allons pouvoir parler du film Les Blues Brothers, réalisé par John Landis, qu'on connaît surtout aussi grâce au clip Thriller de Michael Jackson qu'il avait réalisé, et l'excellent Loup-garou de Londres, dont je suis personnellement une fan absolue. Tu n'as pas vu, Lise ?
Je l'ai pas vu. Non.
Et c'est l'un des meilleurs films de loup-garou, c'est la transformation pépite. Et il a aussi fait Un fauteuil pour deux, où l'on retrouve Dan Aykroyd, peut-être un de ses acteurs fétiches, je ne sais pas, qui est donc bien évidemment dans Blues Brothers, aux côtés de John Belushi.
Et dans SOS Fantôme.
Et dans SOS Fantôme. Très très bon film aussi, également. Donc voilà, est-ce que quelqu'un veut nous faire un petit résumé des Blues Brothers?
Eh ben, je vais me lancer. Alors déjà, pour parler des Blues Brothers, non pas le film, mais le duo. Ils avaient déjà plus ou moins, donc déjà le même nom et la même esthétique qu'on retrouve aujourd'hui. Donc ils se produisaient donc dans l'émission du Saturday Night Live en 1976. Ils faisaient donc comme ça en première, je crois, des reprises de chansons de blues très connues. Ils avaient donc déjà le groupe qu'ils vont reformer dans le film. Et alors, le problème, c'est qu'on n'en sait pas énormément plus que ça. On en sait un peu plus, mais pas énormément. Parce que c'est un peu des médias perdus aujourd'hui, ces émissions-là. On en a une mythique, donc où ils ont les costumes qui retrouvent dans les films. Mais moi, de ce que j'ai lu, à l'origine, le duo Blues Brothers, c'est pas forcément ces personnages en costume noir avec des Ray-Ban complètement mythiques et qui tout d'un coup deviennent déjantés. Des fois, ils ont des costumes qui sont de base déjantés, de base un peu hystériques, et ils étaient dans plusieurs registres. Donc ça commençait comme ça. Ensuite, donc forcément, ça a très bien pris. Ils ont commencé à faire un premier album, un album de reprise, Briefcase Full of Blues, qui devient comme disque de platine. Donc qui reprend beaucoup des artistes donc qu'on retrouve dans le film. Et ensuite forcément, donc étant donné qu'il y a déjà un projet artistique et une grosse manne financière sur eux, il va y avoir comme ça ce projet de film qui avait une immense production pour son époque, donc autour du duo des Blues Brothers. Donc ce film, de quoi est-ce qu'il parle? Il parle de Joliet Jay, qui est Elwood Blues, qui se retrouve après la sortie de prison de Jake, joué par John Belushi. Il sort de prison, ils sont un peu perdus, et ils sont un petit peu sommés par le scénario de retrouver 5000 euros. Je crois ça, $5,000, je crois.
C'est pas une bonne sœur qui...
Oui, non, mais je le dis comme ça parce que c'est une quête comme ça qui s'impose à eux. Donc ils retrouvent cette bonne sœur. Ils ont une révélation divine comme quoi ils doivent reformer le groupe. Et à partir de là, ils vont reformer le groupe et essayer de réunir cet argent via un concert. Donc là, je pense qu'on a plus ou moins résumé la grosse trame narrative. Donc après, il va y avoir plein de péripéties dont on va parler ou non. Mais le scénario, en gros, c'est ça.
Alors, première question, pourquoi ce film est-il devenu culte ?
Alors, ce film est devenu culte, bon, tout d'abord par ce côté film musical, hein, qui regroupe tout le casting star du rhythm and blues, de la musique soul, du blues. Enfin, on y retrouve James Brown, Aretha Franklin, Johnny Hooker, que les grands fans du blues connaissent, et puis bien sûr Ray Charles, et le vieillissant Cab Calloway, qui fait le passage entre le jazz et le blues, qui est une grande, grande vedette, mais bon, que les gens connaissent un peu moins. Donc il y a ce coup de projecteur sur la musique noire américaine, dont John Landis est un fan absolu. Et puis il y a les scènes cultes, hein, là, cette fameuse scène de la poursuite en voiture, qui est un peu un remake, hein, une espèce de parodie, un coup d'œil sur le burlesque des années 20, des films muets, où il y a des quantités de films de voitures policières qui poursuivent les acteurs principaux. Imaginez cette scène où il y a toutes ces voitures de police qui sont à la poursuite de nos deux protagonistes, dont il y a cette scène. Il y a aussi le duo. JB parlait de Dan Aykroyd et John Belushi. C'est un duo assez exceptionnel, quoi, hein. Une personnalité et leur costume aussi. Leur costume, c'est devenu presque un uniforme. Habillé sobre, il n'y a pas de grande originalité. Un costume, une petite cravate, un petit chapeau et des lunettes noires. Si vous demandez à quelqu'un, tu t'habilles comment ? Si tu t'habilles en chapeau noir, lunettes noires, costume noir, ils sauront tout de suite à quoi ça fait référence. C'est les Blues Brothers. Voilà, deux personnes comme ça, c'est un duo de génie. Hein, JB en parlait dans le Saturday Night Live. Déjà, ils avaient fait exploser de rire les gens en s'habillant n'importe comment. Ils ont même fait un sketch habillé en abeille, en chantant du blues en abeille. Bon, ben c'est ce à quoi tu faisais référence. La BO, un producteur musical de génie, Elmer Bernstein, qui a fait la musique des Sept Mercenaires, American College, etc. Les acteurs qu'il fait intervenir, Carrie Fisher, qui à l'époque est en train de faire la princesse Leia dans Star Wars, qui là est un peu à contre-rôle. Il y a aussi, je ne sais pas si vous connaissez, Frank Oz, qui est un marionnettiste de génie, qui fait le film Dark Crystal, qui est un grand, grand film d'animation. Et puis Steven Spielberg, qui est là aussi dans un petit rôle à la fin du film qu'on retrouve. Et puis enfin, John Landis aussi, qui a son petit rôle dans le film. Bon, il y a une autre scène aussi qui est assez, dont on ne peut pas s'échapper, c'est la scène de la destruction du shopping center. Hein. Ce shopping center qui est dévasté par cette poursuite, ça reste aussi une scène culte. Voilà un petit peu pourquoi je pense qu'il y a un public fanatique qui connaît bien ces scènes-là, qui connaît bien ce public-là. Et puis, il faut être fan aussi de cette musique noire américaine, hein, qui est assez extraordinaire.
C'est vrai que la musique et les interprètes sont de très très bons musiciens. Moi, j'avoue qu'en le regardant pour préparer l'émission, j'ai été hyper déçu. Parce qu'en fait, quand j'étais petit, j'en avais gardé un bon souvenir. Parce qu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, il passe régulièrement à la télé. C'est un film culte, donc forcément, il passe régulièrement à la télé. Et je me dis, ah, trop bien, ça va être trop chouette, je suis vraiment contente de le revoir. Et là, je me dis, mais j'ai été déçu par rapport à mon souvenir d'enfance, en me disant, mais il casse tout, il n'y a pas trop de dialogue, je trouve que les enchaînements des scènes sont pas hyper logiques. Alors du coup, oui, on en parlait, Lise, il y avait un côté peut-être un peu burlesque aussi, de cartoon, comme de dessin animé, comme tu nous disais aussi.
Oui, c'est les lois de la physique n'ont pas lieu dans ce film. Il y a la suspension d'incrédulité dont on parlait aussi, du spectateur. Il faut se mettre en condition. C'est une forme d'humour absurde. C'est du cartoon et on y va. Il ne faut pas se poser de questions, en fait.
Est-ce que c'est du cartoon comme pour, par exemple, Roger Rabbit, où là, vraiment... Ou est-ce qu'on l'accepte plus parce que dans Roger Rabbit, il y a vraiment le côté cartoon visible, quoi.
Je pense qu'il y a vraiment ce côté-là, effectivement. Le film te le dit. Ouais.
Moi, je pense que plus que Roger Rabbit, quoique Roger Rabbit fait aussi référence à ça, hein, on est plus proche de Tex Avery. Tex Avery qui est dans ce que tu dis, hein, l'absurde. L'absurde complètement fou, quoi, déjanté.
Oui, parce que là, dans la scène avec Carrie Fisher, d'ailleurs, qui passe tout son temps, enfin tout le film, à essayer de tuer quand même deux personnes, et elle est sacrément bien armée, quoi. Mitraillette, bazooka, je sais même plus ce qu'elle a, elle a au moins 4-5 armes différentes, en fait, où elle arrive comme ça, on sait pas pourquoi elle vient, on sait pas qui c'est dès le début, on sait vraiment qu'à la fin, je ne cite pas, évidemment, il faudra aller voir le film, bien sûr, qui détruit un hôtel, et en fait, on voit clairement que les briques sont intactes, qu'il n'y a pas de poussière, que personne n'est mort, que tout se passe bien, y compris dans la scène du début où, pour échapper à la police, ils détruisent tout un centre commercial, comme tu le disais. Tout va bien. Il n'y a pas de souci. En vrai, dans la vraie vie, on considérait ces hommes comme des terroristes. Il y aurait une chasse à l'homme. Ils seraient arrêtés, probablement abattus dans une série filmée à la télé. Je sais plus, Bad Cops, un truc... Cops, je crois que c'est ça, aux États-Unis. Oui. Donc, on serait tous là devant notre télé. Tu vois ce qui se passe aux États-Unis, mais c'est des malades et tout. Ouais, mais ils portent des costards. Ils ont des chapeaux, les rébabs.
J'ai deux choses. La première, si tu regardes Ville Coyote, ouais. Bibip, est-ce qu'à un seul instant, tu t'inquiètes pour Bibip?
Oui.
Pour le... Je sais même plus son nom, mais... Tu t'inquiètes pour lui?
Pour le méchant?
Non, pour le gentil. Pour le qui se fait... Pour...
Bah, il s'en sort toujours, donc j'ai plus d'empathie pour le méchant, quand même. Ouais. Il a faim, le gars. Il a faim. Bibi, franchement, je trouve hautain.
Mais là, ils sont en mission pour le Seigneur. Et c'est peut-être pour ça aussi, d'ailleurs, que tout se passe bien.
Ah,
parce que le Seigneur est avec eux, peut-être.
Alors, le Seigneur est avec eux, donc c'est-à-dire qu'en gros, le Seigneur cautionnerait des actes répréhensibles par la loi.
Oui, bah, si personne... Le Vatican les a validés ensuite.
C'est vrai.
Qu'est-ce que tu dis?
Le Vatican a validé la...
Oui.
Non, sérieux ? Leur mission, oui.
En 2010, oui.
Pour de vrai.
En 2010, il y a eu un article du journal du Vatican qui a validé le fait que les deux personnages étaient là en mission du Seigneur.
Waouh, donc il y a vraiment un journaliste qui est allé voir ça.
Je ne savais pas.
Moi non plus.
Je n'avais pas cette information.
En 2010, donc ça a été validé bien longtemps après la sortie du film. Donc pendant des années... Israël en enfer, visiblement. Mais depuis 2010, ça va.
Mais c'est pareil. Enfin, t'as déjà vu des films de super-héros, des Marvel et tout,
ouais,
etc.
Ouais, ils détruisent tout. Hein.
Bah oui.
Un Superman, niveau dégâts.
Et du coup, on s'en fout aussi. Enfin,
il y en a qui s'en foutent quand même. Enfin, quand tu te fais détruire... déjà, là, on regarde, bon, pour ceux qui ont des inondations, les pauvres, c'est horrible. T'arrives parce qu'il y a deux mecs en costard qui détruisent toute ta vie et on devrait dire ah bah non ça va, ils sont en mission pour le Seigneur donc c'est bon, c'est cool. Ça marche à l'assurance ou pas concrètement? Est-ce que tu vas voir l'assurance en disant je peux récupérer mes biens, je sais pas comment ça se passe quoi.
Mais je pense que c'est le côté décalage, hein. Le fait que la voiture des Blues Brothers qui pendant tout le film est la voiture la plus rapide, la plus costaud, et puis qu'à la fin elle arrive devant l'orphelinat et qu'elle se déglingue complètement, ça n'arrive jamais dans le réel, quoi. C'est pas possible. En général, c'est plutôt l'inverse.
Oui.
C'est au moment où t'en as le plus besoin que ta voiture, elle démarre pas. Mm. Ben là, non, c'est l'inverse.
Mais il faut rappeler que c'est une voiture de police. Alors, n'est-ce pas une sorte d'hommage à la police des États-Unis ou en tout cas à leur voiture? C'est vrai que les voitures de police sont quand même des modèles récents en général. Ils ont de bonnes voitures.
Sauf la leur. Elle, c'est un ancien modèle.
Oui. Ben, visiblement, l'ancien modèle est plus efficace que les plus récents, que ceux que les policiers qui les pourchassent. Donc, et ils sont pourchassés aussi par des néo-nazis qui étaient à la base sur un rassemblement de ponts pour célébrer le fait qu'ils avaient gagné un procès, un truc comme ça, je crois, si je me souviens bien.
Ils ont gagné le droit d'exister en tant que parti politique, je crois.
Voilà, c'est ça. Bah, comme le Front National,
le deuxième amendement.
Deuxième amendement, oui, à la liberté d'expression, bien sûr. Et donc, oui, ils leur foncent dessus, en voiture. Bon, là, pareil, ils sautent tous à la flotte. Du coup, ils énervent des néo-nazis qui vont passer, là aussi, tout le film, à les pourchasser. Et du coup, finalement, ils sont pourchassés par combien de personnes à la fin?
Tout le monde.
Par tout le monde, ouais. Il y a la police, des nazis.
Les pompiers,
l'armée.
Carrie Fisher,
qui est une traqueuse hors pair. Hein.
Ah oui.
Hallucinant.
Oui,
bon,
oui,
elle
oui.
tue pas les gens, mais...
Puis elle est bien armée, hein. Ouais, bien équipée quand même.
Mais je crois que c'est elle encore qui arrive à mieux les suivre, hein. Parce que c'est elle qui les retrouve dans les égouts.
Exactement.
Ouais, donc une fin lignée, cette petite Carrie Fisher. Donc si vous allez à la chasse aux champignons, pensez à Carrie Fisher.
Mais Je pense que JB avait quelque chose sur le scénario qui me semblait intéressant.
Moi, je voulais parler, donc... revenir, je pense, à l'écriture du scénario, parce qu'en fait, elle a été, donc, ça a été réalisé par Dan Aykroyd, donc l'acteur qui, en fait, a eu une semaine ou deux pour le faire. Donc, il a dû faire un immense pavé, je crois, 300 pages. De choses qu'il voulait voir et de choses qu'il voulait faire. Et moi, je pense que c'est là-dessus qu'il faut se pencher. C'est que c'est un film, enfin, un scénario qui contient des choses qu'il voulait voir et des choses qu'il voulait faire. C'est-à-dire pas forcément des choses qui s'enchaînent de façon logique ou avec de l'importance, mais plutôt des choses intéressantes et plaisantes à voir. Ce qui, moi, juste d'un point de vue personnel, me parle beaucoup plus qu'un scénario qui lancerait forcément des pistes et qui irait joindre des lignes pour ensuite les retrouver, et ainsi de suite. Moi, j'aime beaucoup plus quelque chose comme ça, où on va avoir une suite de scènes qui n'ont pas forcément de lien ou pas forcément d'importance scénaristique. Je pense que le meilleur exemple pour ça, c'est la scène avec Ray Charles. En termes d'informations qu'on vit aux spectateurs, c'est quoi ? C'est avant, ils n'avaient pas de piano, maintenant, ils en ont un. Et à la limite, ce piano peut faire de la bonne musique, parce que c'est ce qu'on voit. Mais dans les faits, ce qu'on voit, c'est une scène où donc, Ray Charles, qui en plus, c'est pas qu'il joue mal, c'est qu'en fait, Ray Charles dans la vraie vie, a plein de mimiques, d'expressions qu'on n'a pas ordinairement, qui déjà le rendent à la fois, comme en fait on le connaît, à la fois sympathique et en même temps un petit peu étranger, parce qu'on voit ça très peu et encore plus au cinéma. Et aussi qui, pas malgré lui, mais grâce à lui, le rend extrêmement drôle, parce qu'il est, enfin, il est comme ça, il est ultra sympathique. À un moment donné, donc, il joue sa musique, on se dit, c'est le vieux tonton qui a son expérience et qui va nous apprendre. Et juste après, il se met à tirer sur un gosse qui veut lui voler un truc. Moi, je sais que c'est ma scène préférée. Et quand on ressort de cette scène, on va dire, le scénario n'a pas beaucoup progressé. Et pourtant, je pense que c'est ce genre de scène, on devrait en avoir beaucoup plus dans le cinéma en général.
Pourquoi ? Parce qu'il y a une expertise musicale ?
Oh non, pas une expertise musicale, parce qu'on passe un bon moment.
Ah d'accord, ouais, donc tirer sur un enfant de la part d'un aveugle, c'est...
Oui, mais
je pense que c'est ce que le film a fait de mieux, oui.
dis donc.
Oui, il y a toujours ce côté décalage, hein, oui. Ce côté un petit peu complètement fou. C'est un aveugle, il tire sur le gamin en sachant très bien ce qu'il fait, parce qu'il le loupe. Et je pense que c'est un fin tireur. Un aveugle qui tire sur un gamin en le loupant, c'est calculé, quoi. Mais c'est complètement fou, c'est complètement irréaliste. Un aveugle qui tire sur un gamin, il sait très bien ce qu'il fait, il le loupe, mais sciemment.
En même temps, on a bien vu Gilbert Montagnier conduire une voiture dans un clip pour l'UMP, alors on n'est plus à ça près maintenant. Tout est possible, parce que peut-être qu'en fait l'UMP est aussi missionné par le Seigneur et qu'ils font de la musique blues. Je crois pas trop, mais bon. D'accord, ok. Alors du coup, c'est ce côté un peu patchwork qui te plaît, de scène.
Mais même, c'est que moi, ce qui m'a marqué, c'est que si on voulait analyser, si on était dans une école de cinéma, qu'on voulait analyser ce scénario d'un point de vue purement académique, il aurait très certainement une mauvaise note. Parce que, comme pour l'effet que j'ai évoqué, pourtant... Je pense que ce scénario qui est proprement parlé amateur, il a été fait par quelqu'un qui n'était pas un scénariste professionnel. Je pense qu'il y a beaucoup de films et de scénarios qui auraient des leçons à tirer de ça.
Oui, parce qu'en fait, moi, c'est ce qui me gêne en fait dans ce film, c'est qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de transition, il n'y a pas de logique en fait. Pour moi, c'est vraiment genre on pose une scène, on passe la suivante, voilà quoi. Pour moi, c'est une très bonne excuse pour faire de la musique avec les copains, tu vois.
J'ai l'impression que c'est ça, quoi.
Une excellente excuse. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est pas plus simple de faire un CD pour juste pour écouter de la musique en fait ?
Ce qui est
le plus plaisant pour moi, c'est. Ouais,
c'est un film à sketch. Et puis ça met en avant aussi les tu vois les chanteurs et les chanteuses. Je sais pas comment dire. On les vit. Enfin, tu mets une tête sur une voix.
Dans les années 80, les clips existaient déjà, donc.
Là, on les voit sous leur meilleur aspect. C'est un aspect comédie. Chacun a son petit rôle quand même, sa petite intervention, que ce soit Aretha Franklin ou Ray Charles, justement, ils ont chacun un petit rôle à jouer. Je crois que ça, c'est des sketchs écrits justement par John Landis pour dire, tiens, je vais le mettre un peu dans ce rôle-là, et voilà, quoi.
Et à part Cab Calloway, qui lui, finalement, reste fidèle à son personnage scénique, avec un costume blanc où il est sur scène, où il chante Minnie Mouse...
Minnie the Moocher.
Qui est un de ses plus grands tubes, et ben lui il reste habillé comme ça. Mais Aretha Franklin en vendeuse de cheeseburger, franchement pas ouf quoi. On connaît grande dame là, la sueur du burger qui dégouline, pas ouf quoi.
Mais justement, c'est ce dont vous parlez tout à l'heure, JB. Je crois que t'as parlé de. Elle garde quand même son panache.
Oui.
Mais c'est vrai. Moi, bah, c'est ma scène préférée. Oui. C'est ma scène préférée. Il y a vraiment le côté où elle est en mode vraiment viens pas sur ce terrain là quoi, et je m'affirme, et ce qu'on disait aussi, une femme noire quoi à l'écran, voilà. Et puis un clip, pour moi un clip ça se zappe.
Ouais, tu vois, il y a très très bons clips qu'on adore regarder aussi,
Et là t'as un voyage visuel à travers de la musique quoi.
Pour moi, je pense qu'ils auraient pu se contenter de, on fait des clips, on passe ça sur MTV, voilà. On est bien, on est tranquille. Les lier par rien qui se tient, tu vois. Je sais pas. Après, tu vois, par exemple, le clip avec Think de Aretha Franklin, elle aurait pu faire un clip comme ça aussi, tu vois, pour dire, ben voilà, je suis une femme, je m'affirme, et tout ça. Le mec, il vient me dire, non, je suis l'homme, tu es la femme, c'est moi qui décide. Si t'es pas contente, c'est pareil. Et qu'elle te sorte, ben, je crois, réfléchis vraiment à ce que tu fais, mon petit bonhomme, parce que si là, tu veux vraiment prendre tes clics et tes claques, c'est pas pour revenir. Ah non, tu vois. Ça pourrait être un clip qui aurait pu être fait, que même aurait pu être fait à notre époque, en fait. On pourrait retrouver une chanteuse actuelle le faire.
Oui, mais c'est un pari qu'ils ont fait. Hein. John Landis, quand il avait ça, il a monté son film musical. Il s'est dit, je vais inviter des copains que j'aime bien. Et effectivement, c'était un pari osé. Ça a marché. Pour un film qui a un budget équivalent à l'époque au Retour du Jedi, qui est plus de 10 millions, eh bien, il est rentré dans ses frais parce qu'il a énormément, il a battu tous les records du box-office. Quoi. Donc ça a marché, ça a plu aux gens. Et ce qui a marché, on parlait du CD, c'est qu'en fait, ça a eu des répercussions sur la vente des CD qui ont été vendus après. Quoi, ça a été un énorme succès en termes musicaux, justement, parce que les CD qui ont été faits après, ils ont été vendus. Donc le film, les CD et après les DVD, jackpot.
Tout à fait. Mais justement, est-ce que c'est pas justement un film de copains, fait avec et pour les copains?
John Landis, il est connu pour ça. Hein. C'est avec Dan Aykroyd, après Bill Murray. Enfin, c'est un film de copains. Et puis d'ailleurs, tous les acteurs qu'il fait venir dans son film, qu'il fait intervenir, comme Steven Spielberg, Frank Oz, Carrie Fisher, ce sont des copains. Il les fait venir parce qu'il a envie d'être bien entouré. Puis ses musiciens favoris, quoi. Il a envie que cette musique noire, JB en parlait, soit mis en valeur, quoi. Donc il leur fait un film pour eux, quoi.
Donc c'est un film de kiff, quoi.
Voilà.
Avec un scénario qui serait mal noté dans une école de cinéma par un prof de scénario, parce que oui, ça existe, j'en ai eu un et ça fait bizarre, mais oui.
Et avec beaucoup de course-poursuite,
c'est vrai. Moins que taxi, hein. Et on les remercie pour ça aussi. Je vous propose de faire une petite pause musicale avec justement le célèbre Think d'Aretha Franklin. On s'écoute ça tout de suite.
I'm
Voilà, c'était donc Think de la grande Aretha Franklin qui, bon, on ne propose pas sa discographie parce que vraiment là, on aurait pour peut-être 3 heures d'émission. Une très très grande chanteuse avec une voix incomparable et on la reconnaît aisément. Alors moi, j'avais une petite question. Qu'est-ce qui vous a le plus plu ou le plus marqué dans ce film, Les Blues Brothers ? Qui veut commencer ?
Eh ben, je vais commencer, ça ne dérange personne. Moi, c'est quelque chose qui m'a un peu frappé, parce que donc, je vois ce film qui s'appelle Les Blues Brothers, j'identifie le mot blues déjà, et je me dis, bon, à une époque où le blues devait sans doute être hégémonique, ça a dû être un peu le produit de son époque, on sort un film avec toutes les vedettes de son époque. Sauf que c'est pas ce qui s'est passé, c'est un film qui est sorti à une époque où le blues était un peu passé. Donc le blues, et même, comme on le disait, ces musiques noires anciennes-là, donc liées au soul, au jazz et autres. Parce que sinon, il y avait le rap et le disco qui arrivaient bientôt. Et justement, donc, ce qui m'a marqué quand j'ai appris ça, c'est que dans le film, on ne le voit pas trop. On ne voit pas du tout le disco et on ne voit forcément le country que comme une espèce de truc un peu ringard et très agressif, très réactionnaire de par les gens qui l'incarnent. Et donc moi, c'est ça dont j'aimerais bien qu'on parle. C'est comment le film traite ou ne traite pas les autres genres musicaux contemporains.
Pour dire en gros le blues c'est le meilleur, les autres soit ils n'existent pas, soit c'est des furieux quoi.
Un petit peu.
Vous en pensez quoi vous du coup ? Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça aussi, Lise ?
Bah alors personnellement non. Je dirais que je l'ai ressenti comme justement du coup un film de copains, de kiff comme on disait tout à l'heure et du coup l'envie de mettre en avant cette musique noire, mais j'ai peut-être aussi pas la culture de tout ce qu'il y a derrière, du disco aussi, qui me permet d'avoir pu remarquer ça. J'ai vraiment vu ça comme un voyage, quoi. Un truc, je sais pas... voilà, j'ai envie de vous montrer ça, de vous faire écouter ça. Mmh. Prenez votre kiff.
Donc plus une envie de montrer le blues, de le mettre en avant,
de parcourir,
de faire éteindre les autres, quoi.
Exactement. Mmh.
Pour toi, Jean-Pierre ?
Alors, je pense qu'effectivement, il y a cette volonté de valoriser cette musique-là, hein, parce que c'est toute une musique. Mais pas forcément au dépend des autres, parce que John Landis, il n'est pas très disco, mais après, dans ses autres films, il y a d'autres musiques qui apparaissent. Hein. Non, là, je crois qu'il avait envie de dédier ce film-là à cette musique-là. Voilà. Après, moi, ce qui m'a le plus intéressé dans ce film, c'est le côté énergie. Il y a une sacrée énergie dans ce film. Il est péchu, quoi. Tu ressors de ce film, t'es gonflé, quoi. T'es regonflé, t'as envie de danser. Moi, je suis pas un bon danseur, mais là, j'ai envie de danser, quoi. J'ai envie de danser avec les Blues Brothers. J'adore cette scène où ils dansent tous les deux. C'est ça aussi qui fait la force de ce duo, c'est qu'ils ont un numéro à tous les deux, ça fonctionne. Ce sont deux potes, on le voit bien. Il y a un petit truc quand même, faut le savoir, John Belushi, il est addict cocaïnomane à fond les gamelles.
Je crois que ça se voit dans le film. Hein.
Ça se voit et ils ont eu beaucoup de mal. Le principal écueil du film, ça a été justement lui, parce qu'à certains moments, lui, il était inservable.
Mais on ne pouvait pas le tenir.
Voilà, c'est ça. Il en est mort, le pauvre, d'ailleurs.
Oui, donc ne touchez pas la drogue.
Ouais, c'est ça.
Petit message.
Mais c'est rigolo parce que toi, ça t'a regonflé.
Ouais.
Moi, je me suis sentie presque lessivée. Un pas déçu, mais ouais, mais quelque chose de waouh, toute cette énergie, quoi.
Ben voilà, trop d'énergie.
Pourtant, j'en ai parfois, mais c'est genre ouh.
C'est comme les enfants à Noël, quoi. Ah, mais calmez-vous.
Quand est-ce qu'on se pose ? Ah non, pas là.
Et pour revenir effectivement à ce que tu disais, que il y avait peut-être une façon aussi de vouloir atténuer les autres musiques. C'est vrai qu'avec la country, moi déjà, en regardant... Après, j'ai vu en français, donc je ne sais pas si la traduction était bonne. je ne sais pas si c'était des Texans ou des Québécois au début. Donc, je n'avais pas tout de suite capté. Et le fait de montrer que la country, vraiment, c'est... les fans sont des gens agressifs, alcooliques, qui dansent sur les tables parce qu'ils sont vite torchés, tu vois. Il y avait un côté un peu genre, c'est de la musique un peu sale, tu vois, en opposition... À le blues où ils sont bien habillés, où ils ont du cuivre, où ils ont plusieurs instruments. Et on voit aussi ceux qui devaient justement jouer au concert, qui les pourchassent, encore des gens qui les pourchassent, et ils n'ont pas l'air très fut-fut aussi, ça a l'air d'être un peu des brutes aussi.
C'est également. Des rednecks.
Ouais, ouais, c'est
voilà
ça.
Quoi, c'est ça, ouais.
Alors, c'est caricatural, hein, parce que John Landis, il se moque pas. Et effectivement, dans ce film, il assimile la country aux blancs, aux petits blancs et tout ça. Mais le country, ça reste aussi une formidable musique, hein. Vous avez un type qui s'appelle Johnny Cash. qui est un grand représentant de la musique country, et c'est un chanteur engagé, c'est un chanteur qui s'est battu pour les Indiens, pour les minorités, et ça reste une grande vedette. Je pense que John Landis, il est, c'est pas quelqu'un qui détestait Johnny Cash, quoi.
Non, non, je pense pas, mais c'est vrai que la vision dans le film, il y a une sacrée opposition entre la country et le blues, mais en même temps, nous, la country en France, on la connaît peu, quoi. C'est pas un style qui est venu beaucoup jusqu'à. On voit pas.
Il y a des festivals hein, maintenant.
Oui,
en
mais c'est récent. Ouais. J'ai d'ailleurs rencontré un policier qu'on organisait un à côté de Rennes lors d'une arrestation. Il m'a proposé d'y aller. Trop sympa. <Tu vois. rire> Mais oui, mais c'est vrai que même à l'époque, dans les années 80, la country, soit t'étais fan et tu faisais importer des CD des États-Unis, mais je veux dire, on n'en voyait pas passer à la télé, quoi. Dans Charlie Lulu, j'ai pas souvenir d'avoir vu des chanteurs de country, quoi. Alors oui, Charlie Lulu, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont beaucoup plus jeunes que nous, c'était une émission un peu Top of the Pop, mais version française, quoi. Où on a d'ailleurs découvert Ophélie Winter. Voilà, petite anecdote intéressante. Et La Rousseau aussi, je crois.
Qui chante « Dieu m'a donné la foi ». Oui. Ne serait-ce pas la boucle bouclée.
Mais tout à fait ça. Finalement, en réadaptation, est-ce que Ophélie Winter ne jouerait pas dans une réadaptation des Blues Brothers? Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense qu'elle a pris un petit coup de vieux. Là,
quand ouais, bah, elle est plus toute jeune. Et, bah oui, après.
Et puis elle a changé de cheval aussi.
De cheval.
Oui, je veux dire qu'elle est plus sur la ligne Dieu. Je suis la voile envoyée de Dieu.
Oui, bah après, elle va peut-être faire le rôle de la bonne sœur. Hein, disant Dieu m'a donné la foi, c'est à vous d'y aller, tu vois. C'est. Est-ce que vous pensez que ça ferait un bon remake? Non, Lise, donc clairement.
Non, ouais, non pardon.
Non, mais après, si ça devait faire un remake, est-ce qu'on partirait sur du blues aussi? Parce que c'est un style qui reste intemporel, en fait.
Le remake qu'a fait John Landis lui-même en 2000, le Blues Brothers 2000, n'a pas très très bien marché. Mm. Enfin, en tout cas, bien loin que du succès enregistré en 80. Donc, faut se méfier des remakes.
Mais peut-être parce qu'on l'a vu plus comme une suite que comme un remake.
Ben, il a fait avec les musiciens de 2000, de l'an 2000, qui n'étaient pas les mêmes.
Oui, bah oui, parce qu'il y a quand même 30 ans d'écart.
Voilà, c'est ça. Puis je pense que... Voilà, il y avait aussi quelque chose qui manquait, c'était la personnalité de Jake.
Oui, de John Belushi. Oui.
Voilà.
Oui.
Et ça fait mal au couple. Hein.
Ouais.
C'était plus du tout pareil. Il y avait Dan Aykroyd était là, mais il n'y avait plus le même duo. Ça ne fonctionnait pas pareil.
Bah oui, puis même Dan Aykroyd avait dû vieillir aussi, et puis on le connaît plus pour les fantômes.
SOS Fantômes,
voilà, j'en perds mes mots. Est-ce qu'on l'adapterait en blues, en sachant que maintenant, qu'est-ce qu'il y a encore comme chanteur blues actuel?
On fait du R&B.
Oui, à la base, rhythm and blues, tout
mais
à fait
coup,
ça.
Pourquoi est-ce qu'on... Enfin, en fait, je ne verrais pas l'intérêt du remake, en fait.
Ouais.
Je sais pas.
Non, je sais pas,
peut-être dans d'autres,
question,
dans d'autres. Mais là, comme le propos, il n'y a pas de propos dans le scénario. Faire un remake, ça. Je sais pas. Pour moi, faire un remake, ça n'a pas forcément de sens pour ce film-là.
Ok. Une adaptation à un milieu plus contemporain.
Oui, une adaptation. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ah, R&B.
Ouais.
Oui, pourquoi?
Et du coup, on sortirait Ophélie Winter, La Rousseau.
Que des blancs, quoi.
Bah non, bah sinon on va sur
Beyoncé.
On a quand même de sacrées chances de chanter.
Rihanna.
Voilà. Ah bah là du coup pour très rythmé, est-ce que ce coup ce serait pas une version plus féminine en fait?
Totalement.
Ouais.
Ça pourrait être très intéressant aussi. Bon bah proposition pour les studios. Warner Bros.
On attend vos appels.
Ouais. Tout à fait. On va écrire un sketch, enfin sketch pas du tout. On va écrire un film en deux semaines et on va faire pareil, le même thématique, patchwork sans lien direct. Ça va être hyper sympa. Non mais bon, j'avoue c'est mon avis, c'est pas très sympa.
Et on pourrait mettre un petit blanc dans la position d'Aretha Franklin, en custo là.
Un petit Ed Sheeran. Ah,
ouais,
c'est ça.
Effectivement.
Exactement.
Ouais. Un étudiant en fait finalement, parce que qui bosse dans une chaîne de distribution de burgers.
Par exemple.
J'ai pas le droit de dire des noms, mais on sait tous à quoi on pense. très bien.
Donc, pour le mois de février, le 24 février à 20h, donc samedi, on va passer le premier film Mad Max.
Oh, cool. Donc le vieux.
Le vieux.
Pas le nouveau.
Pas le nouveau, okay. Pas Fury Road.
Et j'ai aussi quelque chose à rajouter, c'est que le Café Labo est toujours là pour vous accompagner avant et après les séances. Notamment pour les Blues Brothers, où en fait, on va adapter ce qu'on vous propose en fonction des gens qui seront là et de ce qu'ils voudront faire. Voilà.
Ça marche. Cool.
Donc on est là.
Alors moi j'ai une dernière petite chose, moi je suis bénévole au cinéma Le Majestic, je fais partie de cette troupe intéressante, hein, des gens vraiment chouettes avec qui on s'engage un petit peu dans le cinéma et on s'amuse bien. C'est vraiment pas contraignant, on choisit nous-mêmes les jours où on veut projeter, on choisit les films et on peut y aller aussi sans avoir à projeter, c'est-à-dire qu'on peut se délecter de tous les films qui passent et c'est vraiment un rôle chouette. Donc s'il y en a qui veulent nous rejoindre, la porte est largement ouverte.
Et bien justement, nous avions une petite interview de Jean-Baptiste qui revient sur le bénévolat au cinéma, le Majestic de Montmorillon. C'est comment ça se passe pour être projectionniste. On écoute ça tout de suite.
Bonjour, je suis Jean-Baptiste Rocher, le médiateur culturel de l'association L'Étoile, donc située à Montmorillon et à La Trémouille.
Alors comment faire pour devenir bénévole au cinéma?
Eh bien, trouver un moyen de nous contacter, donc soit sur le site internet, soit en vous rendant en caisse, sur la page Facebook, sur le numéro de téléphone. Vous faites une demande et dès lors, donc pour devenir projectionniste, on trouvera ensemble un créneau et on pourra voir pour vous former, donc une formation très très simple pour pouvoir devenir bénévole projectionniste.
Combien de temps dure la formation?
Ça peut dépendre, mais ça va pas dépasser les 20 minutes. En général, c'est vraiment juste une question de comprendre un petit peu la logique derrière la projection et retenir les étapes. En général, le plus simple, c'est que vous finissiez par prendre des notes, que vous pratiquiez un tout petit peu et vous serez très vite prêt à projeter tout seul.
Et est-ce qu'on a des avantages à être bénévole?
Oui, bien sûr, des avantages, même un petit peu plus comparé à la moyenne des salles. Donc en fait, dès lors que vous êtes bénévole, vous payez une cotisation de 5€ à l'année. Et après, vous avez accès à tous les films que vous voulez de façon illimitée, sans avoir à présenter justificatif, à part évidemment votre justificatif d'adhésion. Il faut juste ensuite assurer une moyenne de une séance par semaine.
C'est jouable, ça peut être n'importe quel jour dans la semaine, à n'importe quelle heure?
Il faut juste que la séance soit pas déjà prise et que ça puisse rendre service. Et alors des fois, vous pouvez vous mettre à plusieurs sur une séance, l'un peut projeter, l'autre peut vendre les bonbons. Sinon après, ça va être au cas par cas, ça va être selon comment tel bénévole peut s'arranger. Mais en général, si on sait qu'un bénévole ne peut que 2 ou 3 jours par semaine, on va lui laisser ces créneaux-là.
Eh bien voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés et d'être venus, surtout à Lise, Jean-Baptiste et Jean-Pierre, pour être venus parler de cinéma et de films, chose qui nous passionne et nous anime tous. Et vous pouvez d'ailleurs nous rejoindre si vous voulez. Donc n'hésitez pas, il y a des avantages, comme vous avez pu l'entendre dans la petite interview. Donc on se retrouve, nous, très prochainement pour une nouvelle émission. Et on va se quitter, bien entendu, avec une musique des Blues Brothers. Et attention à mon anglais, « Time of Road ». J'espère que je l'ai bien dit.
Rolling, 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 though the streams are swollen, keep them doggies rolling raw hard. Rain and wind and weather, hell bent for leather. Wishing my gal was by my side. All the things I'm missing, good victuals, love and kissing, are waiting at the end of my ride.
Move them on,
hit them up,
hit them up,
move them on,
move them on,
hit them up,
rawhide,
cut them out,
ride them in,
ride them in,
cut them out,
cut them out,
ride them in, rawhide. Moving, moving, though they're disapproving, keep them doggies moving rawhide.
Don't try to understand them, just rope, crow and brand them. Soon we'll be living high and wide.
My heart's calculating, my true love will be waiting, be waiting at the end.
Move 'em on,
hit 'em up,
hit 'em up,
move 'em on,
move 'em on,
hit 'em up,
rawhide, cut 'em out,
ride 'em in,
ride 'em in,
cut 'em out,
cut 'em out,
ride 'em in, rawhide.
Move 'em on,
hit 'em up,
hit 'em up,
move 'em on,
move Move them on. Rawhide. Cut them out.
Ride them in.
Ride them in.
Cut
them
out.
Cut them out. Ride them in rawhide.
Fuck my wife.
Bienvenue. Welcome.